Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, Daniel Margot reconduit à la présidence de la CCI des Alpes de Haute-Provence pour 5 ans. Interview dans un instant. Du 6 au 11 décembre, Marseille célèbre la Méditerranée avec le Prix Med, les annonces de Valérie Gerbaud au micro de Colline Jutet pour Force 7. Féru de patrimoine et écrivain, Louis Albran expose au micro de Laura Giraud l'intérêt de préserver le patrimoine alpin. Les fidèles bénévoles des clubs sportifs du 04 seront récompensés prochainement à Pierre Vert, le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. Sport toujours, Manosque développe son atout sport. Deux jeunes champions de tennis de table ont confirmé le label Terre de Jeux 2024. Les interviews d'Alexis et Félix Lebrun pour Force 7. CCI 04, Daniel Margot, réélu président pour 5 ans.
Précédemment, le président sortant avait pris le relais de Roland Gomez, parti à la tête de la CCI régionale, et cette fois-ci, Daniel Margot a conduit sa liste du début à la fin, c'est-à-dire de la campagne jusqu'à son élection en tant que président. Présentant son nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale Constitutive, Daniel Margot a insisté sur le renouveau, le rajeunissement et la féminisation de son équipe, dont 3 femmes rejoignent 4 hommes dans l'exécutif de la Chambre, une avancée réelle. Représentant l'État, le secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, Paul-François Chira, a fait un plaidoyer sur l'entreprise, son rôle majeur dans les territoires, mais aussi en France et à l'international, assurant les ressortissants du soutien de l'État, dont le plan de relance fut primordial en ces temps de crise sanitaire. Bien des entreprises ont pu bénéficier des mesures gouvernementales afin d'éviter liquidations ou faillites. Sur la feuille de route du président Margot, une ambition: accroître les ressources départementales tout en anticipant une baisse des participations des CCI. Et pour réussir ce challenge, 2 axes, la formation et l'immobilier. Développer l'alternance et la formation continue et ouvrir les bâtiments consulaires aux ressortissants et partenaires à Digne, Manosque ou Sainte-Tulle, par exemple. Considérant la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, comme une opportunité du mieux vivre au travail, Daniel Margot va aussi optimiser les forces vives avec plus de présence sur le terrain et des partenariats transverses innovants. Un séminaire le 14 décembre va regrouper tous les élus pour planifier les objectifs et les moyens de ce début de mandature. Tout juste élu, Daniel Margot évoque ces sujets. Daniel Margot, vous présidez la Chambre de commerce et d'industrie territoriale des Alpes de Haute-Provence et vous êtes avec votre équipe en ordre de marche.
Oui, élu ce matin, président, et avec toute l'équipe, on est enfin installé par la préfecture et on va attaquer dès demain matin notre plan d'action.
On peut résumer en quelques mots vos objectifs, l'immobilier, la formation, la RSE ?
Exactement. Alors, on a 3 objectifs principaux, l'accompagnement RSE, l'accompagnement à la transition énergétique et à la transition numérique. Le tout étant financé, on va dire ça comme ça, certes par la TFC, la taxe de fonctionnement des chambres, mais qui va diminuer, mais en ajoutant la formation qui doit être à la fois en forte croissance et très rentable, et par la gestion immobilière.
Justement, vous prévoyez une baisse de votre taxe des CCI, mais par contre, vous prévoyez aussi une hausse de votre fonctionnement et de vos recettes.
Exactement. Aujourd'hui, notre budget est de 4 millions d'euros en globalité, dont 42% est dû à la taxe de fonctionnement des chambres. On souhaite rapidement monter à 5 millions d'euros de budget et n'être dépendant plus qu'à 26% de l'ensemble de ce budget.
Vous souhaitez également inscrire plus en plus la CCI sur le territoire et sur les terrains, et notamment avec votre personnel.
Voilà, déploiement immobilier dit présence sur le terrain. Nous avons engagé avec le directeur général, à qui je fais entière confiance, une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et avons demandé aux techniciens d'être beaucoup plus sur le terrain, on va dire faire plus d'opérationnel, moins d'institutionnel.
Il y a des nouveaux membres dans votre équipe actuellement. Comment est-ce que ça va se passer pour les intégrer et pour les former, entre guillemets ?
Alors, on va les bizuter. Non, je rigole. 70% de renouvellement des trentenaires, des quadras qui découvrent le monde de la CCI, qui découvrent aussi le monde de l'engagement. Je souhaite qu'on soit une structure à la fois moderne, jeune et dynamique, mais avec une compétence ancienne, c'est-à-dire les anciens élus. Et dès le 14 décembre, nous avons un séminaire de rentrée pour, on va dire, modéliser tout ça. Et quelque part, ce qui me fait plaisir, moi, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 5 ans. J'espère avoir transformé la chambre. J'espère avoir un ou une jeune présidente et aussi un nouveau directeur général, c'est prévu. Donc, si je pouvais léguer les clés de la maison redimensionnées, je serais le plus heureux des hommes.
Vous avez accueilli lors de votre assemblée générale le secrétaire général de la préfecture, Paul-François Chira, qui a parlé évidemment des rapports avec la CCI, mais aussi de Pôle emploi, de la RSE et de plusieurs sujets, notamment du plan de relance également.
Oui, l'État est à nos côtés. Le président de la République, lors de l'Assemblée générale CCI France, a confirmé que nous étions bien présents sur le territoire et que nous avions été utile. Avec le département des Alpes de Haute-Provence, c'est encore plus simple parce que à la fois madame la préfète et les préfets des territoires sont à notre disposition et j'adore ce mix privé-public qui est exceptionnel dans le 04. Donc oui, nous porterons, nous, notre quote-part de la formation, du plan de relance et du déploiement économique.
Avec également un autre acteur économique du département, c'est l'agence de développement qui va travailler avec vous sur l'attractivité des territoires.
Ouais, l'attractivité des territoires, elle est à double facette. La première facette, c'est l'attractivité exogène, c'est le boulot de l'agence. Nous, c'est endogène. Quand le touriste est là, il faut que nos professionnels s'en occupent le mieux possible pour qu'il soit heureux de découvrir l'ensemble du territoire. Et quand il retourne chez lui, qu'il en parle positivement, pour que les frères, les oncles, les tantes reviennent ou viennent dans notre territoire les années ultérieures.
Dernière remarque, vous avez évoqué éventuellement une mutualisation très particulière au niveau territorial.
Oui, alors mutualisation territoriale, oui. Aujourd'hui, je ne revendique pas le fait d'avoir toutes les compétences. Je ne souhaite pas non plus avoir une mutualisation régionale, mais plutôt utiliser les compétences des territoires au même niveau, qu'elles soient marseillaises, niçoises ou gapençaises, et nous aussi, d'un point de vue de Digne, de garder les compétences sur des territoires en en abandonnant certaines, pas en sous-traitance, mais en vraie mutualisation de compétences.
Vous avez du pain sur la planche.
Oui, mais c'est tant mieux, et j'espère tout simplement qu'on n'aura ni grève, ni gilet jaune, et malheureusement ni crise Covid, mais c'est un peu mal parti.
Primed, citoyenneté et regard sur la Méditerranée.
Le Primed, Festival de la Méditerranée en images, a lieu à Marseille du 6 au 11 décembre 2021. Des documentaires seront projetés à la mairie des 1er et 7e arrondissements, dans la bibliothèque Alcazar et au MUCEM. Cet événement gratuit est un temps offert pour découvrir des histoires et témoignages inédits tout autour de cette mer, un temps pour se rassembler et réfléchir sur l'identité méditerranéenne. L'organisation a voulu que des scolaires du bassin méditerranéen puissent participer à la sélection des films. Délégué général du Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle, Valérie Gerbeau donne des détails de cette 25e édition. Elle répond aux questions de Colline Juté.
Je suis Valérie Gerbeau, déléguée générale du CMCA, c'est le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle.
Et vous organisez, en tout cas co-organisez, le Primed, le Festival de la Méditerranée en images. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce festival ?
Alors, c'est un festival de films documentaires qui ont un sujet unique, la Méditerranée. Nous proposons une réflexion au public autour de thématiques méditerranéennes qui sont très nombreuses dans notre festival et que l'on découvre au moment où on reçoit les films. On a reçu cette année 345 documentaires, on en a sélectionné 23, donc c'est une sélection très exigeante et les thématiques sont multiples.
Et comment vous les sélectionnez justement ?
Alors, toute l'équipe du CMCR, on est trois à visionner les films et c'est un peu la méthode de l'entonnoir, si vous voulez. On va visionner les films individuellement, on va se prendre chacun deux catégories, ça fait quand même presque 150 films chacun, et puis on va mettre de côté ceux qui nous paraissent être les meilleurs et on va se passer entre nous ces films-là pour savoir lesquels on conserve pour arriver à la sélection de 23.
Donc ça vous prend toute l'année de visionner ces films, les sélectionner, etc.
Non, on a très peu de temps. On fait un appel à candidature au mois de janvier. On commence à recevoir les films au mois de février. Et puis on visionne entre février et mi-mai, on va dire. D'habitude, on réunit un jury. Cette année, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire. Donc c'est l'équipe du CMCA qui a fait la sélection des films.
Donc ces films pourront être vus à Marseille au mois de décembre. Quelles sont les thématiques qui ressortent de tous ces 23 films sélectionnés ?
Alors, il y a de nombreuses thématiques, mais on a l'amour cette année, et je trouve ça très joli de montrer des films autour de ce thème qui est peu traité. Hein, mais la Méditerranée, c'est aussi ça. On s'aime beaucoup en Méditerranée, on pleure, on rit hein, en Méditerranée. Et là, c'est le cas. Il y a des films sur la guerre en Bosnie, puisque c'est les 20 ans de la guerre de Bosnie en 2022. En fait, c'est 20 ans. Et puis, d'autres thématiques, bien sûr, autour de la migration. C'est une thématique qui revient tout le temps. Des thématiques religieuses aussi, sur le Saint-Sépulcre et des communautés religieuses qui se disputent ce lieu saint. Enfin, il y a de très nombreuses thématiques que l'on retrouve. La lutte contre la pollution en Méditerranée aussi. Donc, vous voyez des thématiques nombreuses, mais qui touchent la Méditerranée dans son entier.
Et vous faites aussi un gros travail avec des lycéens de la région, mais aussi à l'international. Comment vous les impliquez dans le festival ?
Alors, nous avons 1400 jeunes dans la région sud qui font le même travail que des lycéens en Égypte, en Tunisie, Algérie, Maroc, Italie, Liban. Ils visionnent trois films dans leur classe et puis on leur donne des dossiers pédagogiques et ils apprennent à être critiques d'un film. C'est on les fait réfléchir sur leur citoyenneté méditerranéenne. C'est aussi une éducation à l'image, une éducation à la francophonie. C'est une éducation à la démocratie puisqu'ils votent aussi pour leur film préféré. Voilà, donc ils sont très impliqués, les lycéens, dans notre festival.
Qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour eux, être citoyen, citoyenne méditerranéen ?
C'est appartenir à une région du monde où nous avons beaucoup, de nombreux, très nombreux points communs. Et c'est leur faire découvrir ces points communs, c'est aussi lutter contre le racisme, cette action que nous avons, pour faire découvrir aussi, pour leur montrer qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes du Nord et du Sud.
On pourra retrouver ces films dans différents lieux de Marseille de façon gratuite. Et ça, c'est une des spécificités de l'organisation de Primed.
Oui, notre spécificité, c'est d'être gratuit pour être accessible par tous, pour que la culture aille vers tout le monde. C'est essentiel pour nous de rendre ces films gratuits et puis pour aller chercher des publics qui ne viennent pas forcément dans des lieux de projection, qui ouvrent pas la porte de ces lieux de culture, dans les quartiers nord, en faisant un travail avec les associations. Nous essayons de les faire venir et ils sont là, ils répondent très souvent présents. Mais la question, c'est après Covid, comment ça va se passer ?
Le bénévolat sportif sera salué le 13 décembre à Pierrevert.
Lundi 13 décembre, la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif honorera des personnes méritantes au sein de leur club lors d'une soirée remise de médailles à Pierrevert. Une cérémonie se déroulant à l'occasion de la Journée mondiale du bénévolat pour mettre à l'honneur des personnalités valeureuses qui donnent de leur temps pour la bonne marche de leur discipline. Selon Solange Amarenko, présidente de la Fédération des Alpes de Haute-Provence, sans ces petites mains qui œuvrent parfois dans l'ombre, les associations sportives ne connaîtraient pas le même dynamisme. Les bénévoles sont la colonne vertébrale des clubs. Cette rencontre se déroule chaque année dans une commune différente et a pour but de valoriser l'engagement associatif et le bénévolat. Solange Amarenko répond aux questions de Chris Alessandri.
La journée mondiale du bénévolat, en principe, c'est le 5 décembre. Le 5 décembre, il y a le Téléthon. Aussi, nous avons décidé de privilégier l'action Téléthon par rapport à cette journée mondiale du bénévolat. Et notre réunion pour honorer les bénévoles se déroulera le lundi 13 décembre à Pierrevert, la salle polyvalente. Et dans ce cadre, nous allons pouvoir mettre sous les feux de la rampe, on va dire, des personnes qui se donnent corps et âme aux autres, que ce soit dans le monde associatif pur ou bien dans le monde sportif, des personnes qui peut-être ne veulent pas forcément se mettre en avant, mais qui sont essentielles à la vie de tous les jours.
Solange Amarenko, ça doit pas être facile du tout, là, parce qu'il faut des critères donc de sélection, mais ces critères, on a l'impression que tout le monde les a, en fait. Tout le monde y va et donne de soi.
Certaines personnes le font depuis tant d'années que il faut montrer à leurs concitoyens toute l'œuvre accomplie et surtout montrer aux plus jeunes que sans ces personnes qui ont marqué la vie du village, de la cité en général, beaucoup de choses n'auraient pas pu être faites, accomplies. Et c'est un message aussi envers les jeunes, emboîtez le pas, amenez vos idées, amenez votre cœur, amenez votre solidarité. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire de belles choses.
Combien d'associations sont présentes sur cet événement, cette soirée de distinction?
Alors, nous n'avons pas encore le chiffre exact. Malheureusement, vous savez à quel point les consignes sanitaires bloquent beaucoup de choses. Maintenant, il devrait y avoir des récompenses qui vont être remises de façon générale à 3 associations, à 10 personnes individuellement, quel que soit leur âge, leur fonction, leur secteur d'activité. C'est vraiment très, très ouvert.
Le tissu associatif, c'est vraiment la base essentielle hein, pour vos actions. Qu'est-ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle de ce bénévolat? L'engagement, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est toujours là?
La situation actuelle nous conforte dans cet élan de personnes qui donnent la main à d'autres. Certaines se découvrent aujourd'hui à aider telle ou telle action alors qu'elles ne l'auraient pas fait lors d'une autre période. C'est très difficile parce qu'en même temps, il y a une forme de découragement qui peut se faire sentir. Beaucoup de monde engage de l'énergie, dans l'espoir de faire naître quelque chose et à la dernière minute, telle compétition va être annulée pour cause de Covid. Donc c'est très très délicat. En même temps, certaines personnes se découvrent et en même temps, d'autres personnes peuvent se décourager. À nous de garder ce lien les uns vis-à-vis des autres de façon à continuer à avancer et surtout ne pas se décourager. Le travail doit être fait au quotidien, mais parce que nous vivons nos passions au quotidien, donc ça n'a quelque part rien d'extraordinaire. Chaque bénévole donne sans forcément attendre quelque chose en retour.
Vous êtes une présidente dynamique et qui s'investit énormément. Vous avez été distinguée à plusieurs reprises. Quelle analyse est-ce que vous avez sur ce chemin parcouru avec toutes ces actions que vous avez menées et que vous continuez bien sûr à mener?
C'est l'équipe qui fait. Donc les récompenses qui ont pu être remises ne sont que l'éclairage du travail fait par une équipe. Sans les autres, on ne peut rien faire. Donc merci à tous ceux qui ont été autour de moi et c'est surtout pour mettre en avant le sacrifice des personnes personnes qui entourent les bénévoles, parce que c'est toujours au détriment d'une vie personnelle, avec les problèmes de la vie professionnelle pour beaucoup. Donc ces récompenses, c'est surtout un remerciement aux personnes qui entourent chaque récipiendaire.
Alors Florence Amarenco, un petit rappel sur ce rendez-vous que vous fixez. Les portes, bien sûr, sont ouvertes.
Bien sûr, ce sera quand même quelque chose rempli d'émotion, parce que jusqu'en 2013, il n'y avait que le monde sportif qui était honoré. Or, le monde sportif est soutenu par des bénévoles qui ne se contentent pas, bien souvent, d'œuvrer pour leur passion, le judo, le foot, le vélo, mais aussi dans bien d'autres domaines plus associatifs, dans le monde culturel et autres. Et ce sont souvent les mêmes bénévoles que l'on voit. Donc, il faut donner un éclairage à tout ça. Et donc, bien sûr, autant que faire se peut, nous donnons rendez-vous à toutes les personnes de bonne volonté à venir donc sur Pierre Vert le lundi 13 décembre à 2021 à 18h à la salle polyvalente. Ce 13 décembre à 18h, beaucoup de gens se réuniront par la pensée auprès des bénévoles. Voilà.
Manosque vise Paris 2024.
En recevant deux jeunes sportifs de haut niveau, la ville de Manosque confirme de belle manière son label Terre de Jeux 2024. Et quand en plus il s'agit de deux frères Lebrun, pongistes comme leurs aînés manosquins Christophe et Stéphane, qui se sont illustrés dans leur ville et au-delà, voilà déjà 30 ans, c'est magnifique. Aujourd'hui, les fils de Stéphane, qui fut 7e joueur français à l'époque et champion de France par équipe, sont de réelles pépites au palmarès déjà impressionnant. Champion de France junior et champion d'Europe en double à 18 ans, Alexis brille et rêve d'une participation olympique à Paris dans 3 ans. Pour Félix, 15 ans, numéro 1 mondial en cadet et qui s'est aussi offert le luxe de battre le 25e mondial senior, Paris sera peut-être trop tôt, mais on suivra ses performances et ses résultats dans les années à venir. Il est champion de France, bien sûr, et triple champion d'Europe cadet. Les deux sportifs ont rencontré les jeunes du tennis de table manosquin et ont même échangé quelques balles avec eux. D'autres ont croisé leurs raquettes dans une ambiance détendue, tel le maire, Camille Galtier, ou encore le boxeur et champion d'Europe, Karim Guerfi, alors que Stéphane, le papa, et Christophe, le tonton, ont montré qu'ils avaient encore de forts beaux restes. Chez les Lebrun, le tennis de table est une affaire de famille. Avant d'écouter Alexis et Félix, le maire de Manosque, Camille Galtier, rappelle son engouement pour le sport et la dynamique enclenchée sur sa ville pour les Jeux Olympiques en 2024. Camille Galtier, une belle soirée là avec deux sportifs de haut niveau et c'est un choix de la municipalité puisque vous êtes Terre des Jeux 2024.
Un choix assumé de dire que la ville de Manosque a un potentiel sportif assez important, à la fois avec ses infrastructures, mais aussi avec le potentiel associatif. Manosque, c'est 6000 licenciés dans les activités sportives de la ville. C'est énorme, c'est le principal contributeur de licences dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Et c'est aussi des fleurons sportifs. Et le ping-pong, le tennis de table en est un. Et donc ce soir, on était très heureux d'accueillir Félix et Alexis, donc les frères Lebrun, fils de Stéphane et neveu de Christophe. C'est assez exceptionnel comme histoire familiale d'ailleurs.
Justement, c'est une équipe familiale très particulière qui a poussé aussi à Manosque, puisque Stéphane a été champion ici à Manosque, mais Christophe travaille dans les services municipaux au service des sports. C'est important d'avoir comme ça des filiations particulières au niveau des sportifs.
Rien que sur cette salle, au complexe Fachleitner, il a été livré en 2011, il me semble, ce complexe. Je pense que s'il n'y avait pas eu la famille Lebrun, je ne pense pas qu'on aurait doté le club de tennis de table d'un tel équipement. Mais cela a été fait parce que, justement, il y avait une dynamique haut niveau, au niveau des fratries Lebrun, mais c'est aussi une dynamique qu'ils ont su apporter parce qu'ils ont présidé le club pendant de nombreuses années, ils ont été éducateurs auprès d'un certain nombre d'enfants, et que évidemment il y a eu cette dynamique qui a été lancée autour du tennis de table, qui fait que Manosque aujourd'hui est à la pointe au sein de la région sud au niveau du tennis de table.
On sait qu'il y a le tennis de table, il y a également le rugby, il y a beaucoup le vélo et également. Ce sont des choix forts que vous faites au niveau de la mairie.
On essaie déjà d'accompagner toutes les associations sportives, quel que soit le sport, parce qu'on considère que toutes les associations doivent être accompagnées par la collectivité et par les pouvoirs publics. Après, c'est vrai qu'il y a des choix assumés, notamment sur la question du vélo avec le Tour La Provence et sur le rugby, parce qu'il y a des dynamiques d'hommes, souvent. C'est ce que je dis, c'est des histoires d'hommes, la politique. Et c'est vrai qu'avec le rugby, on se retrouve dans une dynamique depuis de nombreuses années qu'on a souhaité accompagner. Et aussi un effet d'aubaine, c'est la Coupe du Monde 2023 qui va aussi profiter à notre territoire.
Pour ce qui est du rugby, bien sûr. Pour nos amis Alexis et Félix, vous les voyez jusqu'en haut du podium en 2024 ?
J'ai découvert ce soir, comme tout le monde, je crois, leur palmarès, qui est assez hallucinant. Quand le palmarès d'Alexis a été présenté, je me suis dit, bon, le deuxième va peut-être être un peu moins bien. Et au final, le deuxième palmarès est encore supérieur. Bravo à eux, parce que, comme ils l'ont dit, hein, c'est des dizaines et des dizaines d'heures par semaine d'entraînement. C'est pas facile tous les jours, c'est des renoncements parfois à la famille, aux loisirs. Mais donc, du coup, il faut savoir les accompagner. Et je crois que les collectivités, dans leur ensemble, ils ont un vrai devoir de responsabilité de dire mais comment on accompagne ces jeunes-là. C'est ce que nous avons fait, nous, notamment avec Eva Berger.
S'ils sont de la partie, c'est le cas de le dire, en 2024, il y aura une partie de Manosque qui sera aux Jeux Olympiques.
Bah, ils amèneront une partie de Manosque dans leur valise, dans le village olympique, et on sera très heureux d'aller les voir sur les compétitions en espérant qu'ils fassent les meilleurs résultats possibles. Mais je crois que les Jeux Olympiques, déjà, rien que d'y participer, c'est exceptionnel.
Les frères Lebrun, Alexis et Félix, on ne peut pas dire que vous êtes des graines de champions, vous êtes déjà des champions. Alexis, vous avez 18 ans et votre palmarès est déjà bien fourni.
Bien fourni, je sais pas, mais en tout cas j'ai été champion d'Europe en double mixte, j'ai été médaille d'argent par équipe et médaille de bronze en individuel, j'ai aussi été médaille de bronze au championnat du monde junior en par équipe, et je suis double champion de France junior, donc j'ai gagné l'année dernière et cette année en finale contre Félix.
Alors justement Félix, le petit frère, il a 3 ans de moins, mais lui aussi il pointe.
Bah ouais, pareil, dans les catégories jeunes, j'ai plutôt bien performé. J'ai gagné les championnats de France minime 2 fois et les championnats de France cadets. Et cette année, j'ai perdu contre Alexis en finale au championnat de France. Et en août, j'ai gagné les championnats d'Europe cadets en simple, en par équipe et en double, en messieurs aussi.
Oui, il est champion du monde cadet aussi. Vous êtes ici à Manosque pour présenter ce qui va arriver en 2024, autrement dit les Jeux Olympiques. C'est un rêve pour vous ?
Oui, forcément, les Jeux Olympiques, c'est un rêve, encore plus quand c'est à Paris. Donc, on est très fiers que ça se passe en France et de le présenter ici à Manosque aussi.
Félix, comment vous préparez pour ces Jeux Olympiques ?
On pense déjà à ce qui va arriver bientôt et on essaye d'y performer le plus possible pour essayer de se préparer, entre guillemets, parce qu'on va essayer de tout faire pour y aller. À l'entraînement aussi, on essaie de mettre en place des nouveaux schèmes, de plus s'entraîner pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'y aller.
Combien d'heures vous passez raquette à la main dans la semaine ?
Ouais, en moyenne entre 20 et 25 heures pour moi.
Ouais, moi entre 20 et 30 heures, je pense.
Vous avez toujours eu ça dans le sang, mais on sait que la famille Lebrun est particulièrement versée par ça. Votre père, Stéphane, vous a accompagné dans cet accomplissement sportif ?
Oui, bien sûr. C'est toujours bien d'avoir un papa qui s'y connaît. Après, il a toujours essayé de sortir un peu de l'entraînement, en plus de rester... En tant que papa, même si bah, bien sûr il nous donne plein de conseils et c'est toujours du plus, mais de pas tomber non plus dans le piège d'entraîner tout le temps, d'y penser tout le temps le week-end, parce que bah, le repos aussi c'est important. Donc bon, on arrive je pense à bien différencier les moments où on parle de ping parce qu'on aime ça, donc c'est tout naturel, mais aussi des moments où on peut parler d'autres choses et voilà.
Alors vous avez tous les deux 15 et 18 ans, c'est l'âge normalement où on suit des études. Où en êtes-vous, Félix ?
Ben moi je suis en seconde au lycée, du coup maintenant Françoise Combe. C'est à Montpellier, à 10 minutes de la salle où je m'entraîne. Je bénéficie de horaires aménagés. Du coup, je peux m'entraîner beaucoup et ça m'aide. Et je pense que ça c'est important que le lycée soutienne les sportifs, donc ça c'est bien. Et moi, du coup, j'ai eu mon bac dans le lycée de Félix et maintenant, je passe une formation d'entraîneur de tennis de table au Krebs de Montpellier où c'est pareil, j'ai des très bons aménagements. Donc ça me permet de pouvoir me consacrer à fond sur le ping.
On sait que vous allez préparer les Jeux Olympiques avec beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, de passion. On vous souhaite le meilleur à tous les deux.
Merci. Merci beaucoup.
c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, François, pour un nouveau Force 7.
Oui, Olivier, merci pour la technique. À bientôt.